Alors justement, je veux bien qu'on reste un petit peu sur ces outils en fait, puisque tu es dans le game hein, des toilettes sèches depuis pas mal d'années maintenant. Est-ce que concrètement, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Parce que voilà, là, ce qu'on essaie de démontrer aussi, c'est qu'on se heurte aussi à la puissance de nos imaginaires. Les toilettes sèches, en vrai, pour, je dirais, 60% des gens, c'est une espèce de cabane au fond du jardin.
Avec un seau.
Voilà, et ça reste un film d'horreur, tu vois. C'est la cabane, un film d'horreur, tu vois. Alors que c'est plus du tout ça, quoi.
Oui.
Alors, c'est quoi, en fait, maintenant, toilettes sèches, avec les doubles flux, etc. C'est
très bien. Et oui. Reliée, à composteur relié.
Non, c'est le turfu, quoi.
Exactement. Il existe actuellement, par exemple, on a un système qui s'est beaucoup développé avec deux entreprises françaises qui travaillent à l'international, qui font des toilettes sur tapis. Donc peut-être vous avez vu ça dans les gîtes de montagne. Moi j'en ai vu beaucoup dans les gîtes de montagne. C'est-à-dire c'est un tapis qui est incliné avec une pédale sur le côté. Les excréments tombent sur le tapis et en fait, ah mais il y en a à Toulouse, je suis bête, dans le parc de Bordeaux-Rouge et dans le parc de la Reinerie, vous pouvez aller en voir. Donc sur ce tapis, l'urine de fait va descendre et va rentrer dans une cuve qu'on peut, qu'on peut vider, et les matières fécales, elles tombent sur le tapis, elles peuvent pas couler, bon à part si on... parce qu'on a un petit souci de transit, et avec la pédale, ça va à l'arrière dans un composteur. Et dans ce composteur, en fait, les matières fécales étant composées à 80% d'eau, avec un système d'aération, elles sèchent, ou sinon on peut rajouter aussi des vers de terre pour le composter. Enfin voilà, il existe ça. C'est deux entreprises françaises qui ont beaucoup développé. Ce qui se développe aussi beaucoup à l'échelle de... Et ça, c'est ce qui est très bien avec ce système-là, c'est qu'on peut ramener énormément de monde. Ça peut être des lieux qui accueillent beaucoup de monde, ça se salit pas. Vraiment c'est très robuste. Ce qu'il existe beaucoup aussi chez des particuliers, c'est la séparation de l'urine. Pourquoi ? Parce que l'urine, ça pue. C'est ça qui fait vraiment l'odeur. En fait, la matière fécale, autant il y a la petite odeur quand ça sort, mais après, ça sent plus vraiment. Et puis, une fois que c'est recouvert de sure, ça n'a pas forcément d'odeur. Mais l'urine, en s'oxydant avec l'oxygène, l'azote part en nitrate, nitrite, et ça sent vraiment pas bon. Donc, on sépare les deux flux avec un système d'entonnoir, donc c'est pour pipi assis uniquement, et à l'avant, donc il y a une sorte d'entonnoir dans laquelle l'urine va et les matières fécales vont à l'arrière.
D'ailleurs, ouais. Tout le temps assis. Hein.
Tout le temps, oui.
Tout le temps, oui. Et pour tout le monde.
Oui, moi c'est ma politique, c'est que...
Pareil.
Et donc les flux vont se séparer et ça va permettre qu'il y ait moins d'odeur, moins d'utilisation de sure aussi. Parce que bon, ben, la sure, des fois on en a à côté et puis des fois on en a un peu loin. Et ça fait aussi qu'on peut le vidanger seul. C'est qu'en fait, d'un côté, tu as ton seau d'urine et de l'autre côté, tu as ton seau de matière fécale avec matière sèche. C'est beaucoup plus facile. Et donc ça, c'est pour la maison.
Le premier enjeu de la toilette sèche, en tout cas de la TLB, c'est de ne plus introduire nos déjections dans le cycle aquatique et ne plus produire de pollution aquatique. Ça, c'est vraiment la base. Donc sortir du cycle aquatique. Deuxième enjeu, c'est le retour à la terre par le compostage. Et ça, déjà, c'est énorme. Parce que justement, on est en train de tuer l'humus du sol par toute l'agriculture intensive, par tous les labours et tout. Toutes les terres cultivées, labourées et tout, maintenant, il n'y a plus d'humus. Ce sont des sols morts. C'est pour ça qu'on est obligé de remettre autant d'intrants dedans. Ce sont des sols morts. Et on est en train de tuer tout l'humus sur terre à cause principalement de l'agriculture intensive. Ne plus considérer nos déjections comme un déchet à éliminer, mais bien comme une matière première, une ressource à valoriser. Et là, on a la chance, on a la possibilité de reproduire cet humus qu'on est en train de tuer partout. Ce concept, en fait, c'est pour moi un triptyque indissociable. Donc on a la toilette sèche qui va récolter tout ce qu'on met dedans, donc nos petits et gros besoins. On a, en complément de la toilette sèche, le compostage qui va traiter les matières solides. Et en troisième élément du triptyque, c'est le traitement sélectif des seules eaux grises, donc les seules eaux ménagères qui restent à traiter, sortant donc uniquement des cuisines et des salles de bain. Donc c'est vraiment un triptyque indissociable et que malheureusement la réglementation a dissocié, puisqu'ils ont reconnu dans la réglementation que l'usage de toilettes sèches et compost, ils ont, sous pression des industriels, je vais dire, éliminé le traitement sélectif des seules eaux grises, qui est très simple et très facile. Quand on regarde le cycle WC traditionnel à eau et assainissement traditionnel, surtout collectif, on est sur un cycle destructif au niveau justement de cette matière organique. C'est un gros gaspillage en fait, et on détruit cette matière organique. Et en plus, pour les rejeter dans des stations d'épuration qui vont traiter qu'une partie du problème et qui vont rejeter la grosse partie du problème en rivière et causer tous les problèmes que ça engendre aussi derrière, Et on est sur un cycle destructif, infernal, qui tourne et qu'on n'arrive pas à casser, et sur un cycle polluant, quoi qu'il en soit. Parce que de toute façon, ça polluera toujours quelque part.
Mais à l'échelle d'immeubles entiers, j'aimerais parler y a des coopératives qui se montent en Suisse, où en fait, de fait, étant donné que l'accès au sol est très contraint, ils se mettent beaucoup en coopérative pour pouvoir créer des espaces de vie. Et le montage en coopérative fait qu'on se questionne beaucoup plus sur plein de petites habitudes et plein de changements. Donc je voulais parler d'une coopérative où l'urine est séparée des matières fécales. Et les matières fécales, c'est avec une micro-chasse d'eau. Donc on ne change pas le geste. En fait, on ne voit pas de changement. On utilise la toilette comme on l'utilise d'habitude. Ça se nettoie exactement comme d'habitude. Et cette micro-chasse d'eau avec les matières fécales vont dans un lit au sous-sol de l'immeuble, vont dans un lit de paille sur lequel ils ont mis des verres à fumier. Et les verres à fumier vont dégrader la matière. Et à la fin, en fait, je pense qu'il faudra peut-être changer la litière au bout de 10 ans, 15 ans. Mais sinon, il n'y a absolument rien à faire. Et juste l'urine à être collectée par un agriculteur qui, pour le coup, l'utilise en agriculture juste en face.
Parce que l'idée, c'est de récupérer, c'est l'azote, tu parlais tout à l'heure, qui permet d'enrichir les sols.
Donc... tu peux le pulvériser. Donc, par exemple, lors de notre festival, nous aurons du vin qui vient de vignes qui ont été amendées au pipi.
Okay.
Donc, elles ont été pulvérisées comme ils pulvérisent un engrais. Ou sinon, ça peut être dilué. Donc, il y a un site à Paris avec un maraîcher et lui, il le dilue. Donc ça dépend un petit peu de la période, ça dépend de l'agriculture et de la période, mais il y a un super livre sur comment jardiner avec son pipi qui existe et qui vous explique exactement combien de portions il faut par rapport au mètre carré et par rapport à votre culture.
Parce que c'est lourd, c'est ça, entre les deux, c'est plutôt l'urine qui pèse le plus de poids.
Là par exemple, ce que je dis sur la coopérative en Suisse, c'est que l'immeuble est construit autour de ça.
Oui,
en fait, c'est qu'on pense les déchets et après on imagine les habitations en se disant ok. Donc ça veut dire, mais c'est effectivement que toute l'occupation du sous-sol, il n'y a pas de voiture, le sous-sol est occupé par des cuves de pipi et la litière pour les matières fécales. Mais ça ne peut pas être fait a posteriori, ils ont fait un système qui est un peu au top, quoi. Mais oui, l'urine est lourde et pour inventer de nouvelles filières, la recherche va plutôt sur le fait de la concentrer. Parce qu'au final, l'urine, il y a beaucoup d'eau, et de transporter de l'eau, ça n'a pas vraiment de sens de mettre des camions sur les routes pour transporter de la flotte, mais donc plutôt d'imaginer comment concentrer ces nutriments-là dont on a vraiment besoin pour atteindre aussi l'autonomie alimentaire. Mais en tout cas, voilà, il existe énormément de systèmes de toilettes. Nous, ce qu'on prône, c'est vraiment les toilettes sans eau et les toilettes à compost. Mais par exemple, ce système de micro-chasse d'eau qui, au final, vont être compostées, ça a du sens. Mm-hmm. Ça a beaucoup de sens. Et si on veut changer les mentalités, il faut quand même arriver à ça. Il y a des toilettes qui aspirent aussi. Dans les TGV, vous avez ça.
Ah oui.
C'est les toilettes qui aspirent, donc ça utilise vraiment très peu d'eau. Il y a plein de choses qui peuvent être pensées. Mais toilettes qui aspirantes, par exemple, ça demande beaucoup d'électricité. Donc autant sur un train, c'est pas un gros souci, mais à l'échelle d'un foyer, c'est complètement stupide d'utiliser de l'électricité pour ça. Mais il faut qu'on s'adapte et il faut surtout penser la ville de demain. Nous, par exemple, ce qu'on porte, c'est que dans toute nouvelle habitation, on ait un circuit pour les toilettes et un circuit pour l'urine. Et que dans toute nouvelle habitation, on fasse les tuyaux, pas que ça soit connecté, mais que ça veut dire que le jour où on est prêt à inventer des filières locales de récupération d'urine pour mettre sur des terres agricoles, on est juste à rajouter un séparateur d'urine sur une toilette en céramique classique, et de suite, on arrive à connecter. Et ça, de mettre en place un espace pour mettre des cuves et d'avoir un circuit, c'est pas du tout contraignant. En sachant que on utilise entre 3 et 5 litres d'eau par chasse d'eau et qu'on va on va faire pipi jusqu'à 10 fois par jour, c'est énorme en fait. Le gaspillage d'eau pour l'urine est vraiment énorme. Donc ça serait vraiment un truc pas contraignant du tout. Et le jour où on est prêt, ça s'active et on a au moins cette matière-là qui est déjà prête.
Tu as évoqué la sûre aussi, c'est la filière bois, c'est des déchets aussi.
C'est ça, il y a des grosses scieries qui arrivent à le vendre, par exemple à Ikea ou des sociétés comme ça, qui le mélangent avec une résine pour en refaire des meubles. Mais la plupart des scieries, à part les très grosses, elles le jettent. C'est pas une matière qu'elles peuvent revaloriser. Mais après, sciure, foin, même, même du foin. Voilà, la sciure, ce qui est bien, c'est que ça panne nos matières. Mais en vrai, toute matière sèche qui est un déchet est bonne à prendre et bonne à utiliser. Mais ça peut être des feuilles mortes, ça peut être de la paille, ça peut être des copeaux de bois. Enfin, c'est pas... Voilà, faut tester des choses et faut surtout tester le déchet à proximité de soi et qu'on peut pas utiliser autrement.
C'est quand même très important, cette notion de litière dans le fonctionnement de la TLB. Parce que cette litière, en fait, donc il faut qu'elle a quatre fonctions vraiment principales. La première, il faut qu'elle soit sèche pour absorber les liquides, donc les urines. Deuxième, il faut qu'elle soit carbonée pour rééquilibrer un petit peu le ratio carbone-azote pour favoriser après un bon compostage aussi derrière. La troisième, c'est aussi cet apport de carbone qui va permettre en contact direct entre cette matière carbonée et nos urines, qui sont essentiellement la charge azotée de nos déjections, c'est de permettre justement, cette matière carbonée va permettre de neutraliser en fait le phénomène de l'uréase. Et l'uréase, en fait, c'est une réaction enzymatique de l'urée qui, si on ne neutralise pas directement à la source cette uréase, transforme en fait d'un azote organique qui reste valorisable et non polluante en azote ammoniacal. Parce que c'est un des enjeux clés, en fait, de l'assainissement, de tout le domaine de l'assainissement, c'est un des enjeux clés, c'est la maîtrise de l'azote et la gestion de l'azote.
Après, le premier rapport, le premier contact, quand on n'a jamais été en contact avec les toilettes sèches, c'est « Ah, c'est dégoûtant ». Mais en fait, tu questionnes, tu dis « Ah, pardon, est-ce que vous voulez que je la lave ? Est-ce qu'elle est sale ? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous dérange ? Est-ce que vous voulez tester une autre cabine ? Peut-être que celle-ci, elle ne vous plaît pas ?» Et en fait, passer le moment des questions-réponses, non, il n'y a rien qui est dégueulasse. En fait, c'est juste « Je ne connais pas ». C'est des toilettes, donc c'est dégueulasse. Et au final, en sortant, il y a toujours « Ah, bah, c'est mieux que des toilettes à eau. » Ben oui, les toilettes à eau, la chasse d'eau, ça éclabousse sur le sol, avec les chaussures, ça fait de la boue. Les gens qui... Enfin voilà, c'est pas aussi bien nettoyé aussi. C'est vrai que quand les toilettes sèches ont commencé à être commercialisées et qu'il y a eu de plus en plus de loueurs sur les événements, il y avait la contrainte de devoir être là pour effectivement remettre de la sciure dans les toilettes, mais il y avait aussi l'idée de, si on veut changer les mentalités, il faut une présence, il faut pas juste déposer cet objet et se casser et se dire que les gens ils feront comme ils peuvent. Non, il faut une présence, il faut sensibiliser les gens, il faut écouter et il faut inventer des objets qui sont de plus en plus accueillants. Donc je sais pas si vous avez entendu parler des urinoirs féminins par exemple, où il y a énormément de personnes qui urinent accroupies, qui ne veulent pas être en contact avec une cuvette, et donc ils vont être en lévitation au-dessus de la cuvette, souvent t'en fous partout quand même, et les urinoirs féminins sont très inclusifs par rapport à ça, où en fait c'est uriner en squat, voilà, peu importe sa morphologie, et au moins t'as pas à toucher, t'as pas à être en contact avec le reste de l'objet.
Mais comme les toilettes turques par exemple ?
Oui, c'est ça, mais c'est un tout petit peu plus haut. Une sorte de tuyau qui sort un peu du mur, donc c'est un peu plus haut. C'est entre la toilette turque et... Mais c'est que moi, la toilette turque, je trouve que c'est super. Je ne sais pas pourquoi on a arrêté de faire ça. Et voilà, et ça, c'est un objet qui fonctionne très bien en festival et sur l'événementiel, parce que justement, c'est adapté en fait, au milieu et aux personnes qui côtoient ces lieux-là. Aussi, il faut que ça soit vraiment très beau, quoi. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit accueillant.
Glamour.
Il faut que ça soit glamour. Il faut qu'il y ait des explications. Comme ça, les gens, ils sont pas paumés hein, en disant « Merde, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris, je suis en train de mal faire les choses. » Ou... Voilà, il faut vraiment tenir par la main la personne. Et comme ça, après...
Tu restes pas avec eux dans,
dans la toilette. Ouais. Non. Mais il y avait une association albigeoise qui gérait les toilettes sèches pour Pose Guitare, et ils avaient monté une petite troupe qui s'appelait les Pousseurs Publics et qui parlait à travers les toilettes aux gens mais c'était, on parle de ça, c'était il y a 20-25 ans en fait, personne n'avait utilisé des toilettes sèches, c'était les premières sur le territoire. Moi je sais que voilà, je viens un peu du coin, les premiers événements des toilettes sèches c'était Africa Jar, Pose Guitare, de ceux que je connais, hein, excusez-moi pour ceux que je connais pas, mais c'était à une époque où personne n'avait ça, et que la seule référence qu'on avait c'était celle que tu disais, c'était le trou au fond du jardin qui est absolument écologiquement un désastre et qui en plus oui c'était des odeurs, enfin c'était pas des toilettes à compost, c'était...
Dans notre reportage aujourd'hui, nous allons vous expliquer le fonctionnement des toilettes sèches en compagnie d'un jeune vieux pousseur public confirmé. Adam, bonjour.
Bonjour.
Et sœur Emmanuelle, je suis sûre qu'elle faisait des gros caca parce qu'on fait tous caca.
De retour sur les ondes de Canal Sud, nous sommes avec Inès, coprésidente du réseau de l'assainissement écologique. Le réseau de l'assainissement écologique fête ses 20 ans. On est passé d'une filière marginale à quelque chose de structuré. Que symbolise cette évolution en 20 ans ?
Donc pour revenir il y a 20 ans, le 1er avril 2006 se tenait la première internationale des toilettes sèches. Oui, à l'époque,
c'est bon, ça.
On a fait ça, l'internationale, à Saint-Mer-de-Laplau, en Corrèze. Et donc c'était surtout des loueurs de toilettes sèches et un constructeur aussi qui fabriquait des toilettes sèches, mais c'était surtout des loueurs qui se sont, par le biais des festivals, des événements, des régisseurs, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas trop seuls. Ils se sont dit, venez, on se voit, pour parler de leurs difficultés à sensibiliser le public, à avoir une bonne image, à sortir de l'image de la toilette au fond du jardin, à composter, à trouver des filières aussi de revalorisation et de compostage. Ils ont décidé de se voir chaque année, pour juste avant la saison des toilettes sèches, donc au printemps, pour essayer de se remotiver et se remobiliser avant la saison qui, donc la saison des festivals, voilà, c'est de mai, juin jusqu'à octobre. Ça a grossi, et à partir des années, je pense, des années 2010, 2000, par là, on a commencé à accueillir aussi des chercheurs, des scientifiques, des personnes qui travaillent sur, qui réfléchissaient sur l'autonomie alimentaire, sur comment en fait utiliser nos excréments pour les valoriser. Et c'est là où ça a un peu popé. Les architectes ont commencé à se poser des questions aussi là-dessus, les constructeurs, les designers, comment on dessine les toilettes du futur. Il y a eu un peu un changement par rapport à ça. Et aussi, si je remontais un peu dans le temps, il y a eu l'arrêté de 2009 autorisant les toilettes sèches. Ça aussi, ça a été un truc que nous, on a beaucoup porté, réseau, heureusement pas seul. Mais les toilettes sèches, avant, n'étaient pas considérées comme un assainissement, c'était assez marginal. Et en faisant rentrer dans la loi, ça veut dire que quand on est en assainissement collectif ou en assainissement non collectif, si on a des toilettes sèches, on part du principe que nos matières sont traitées et sont hygiénisées. Donc ça a été aussi un gros changement pour nous. Et là, depuis, on va dire, 5 ans, on vit notre période de gloire où on est passé d'une centaine d'adhérents à presque 300. Enfin, c'est assez énorme. On a eu des financements aussi, ce qui a beaucoup aidé. Financement de l'ADEME, l'Agence pour le développement écologique, et aussi pour la Fondation pour le progrès de l'humain, ce qui a vraiment aidé à structurer notre réseau. Et là, on s'est dit, pour nos 20 ans, on casse la tirelire. Et on se fait plaisir et on donne vraiment à voir. C'est que donc ces rencontres internationales se sont transformées en rencontres intestinales et on se continue à se réunir chaque année.
Ouais, vous êtes fort en jeu de mots.
Hein. Oui. Ouais, on adore ça.
Franchement.
On adore ça.
Il y en a plein à faire en plus.
Et là, ouais, on voulait vraiment donner à voir ce qu'on fait au grand public et aussi à des gens qui sont curieux de nos réseaux mais qui vont pas non plus prendre le temps de venir à une de nos rencontres qui sont un peu techniques quand même.
Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé finalement en 20 ans. Et qu'est-ce qui, selon vous, au contraire, n'a pas bougé du tout ou très très peu quoi ?
Le côté éducation populaire qui fait vraiment partie de notre raison, notre façon de faire, le fait d'autonomiser les gens. J'aimerais faire un peu un parallèle aussi avec le réseau Compost Citoyen, qui est un réseau frère qui a essayé aussi de développer la valorisation des biodéchets en local et d'imaginer des filières. On a un peu le même esprit que de dire mais en fait il faut autonomiser les gens. Pour les autonomiser, il faut leur redonner du pouvoir et il faut créer du contenu scientifique
facile à comprendre pour que les gens s'autonomisent. Ça, ça a vraiment pas bougé. L'esprit aussi un peu décalé, humour, ça a pas bougé. J'ai l'impression que quand même, quand on travaille dans le milieu caca-pipi, il faut avoir un sacrément d'humour.
Oui, bah, un peu.
un humour caca-pipi d'ailleurs.
C'est ça. Et ça, effectivement, on se rend compte que même si on grossit et même si on est passé voilà, de rencontres intestinales à 40 personnes à des rencontres à 110, 120, l'esprit reste quand même le même. Et l'esprit festif. C'est vrai qu'on a un bon esprit festif. Ouais. Mais ça, c'est les loueurs de toilettes sèches, ça. Ils savent ce que c'est que de pas beaucoup dormir.
Et vous considérez alors plutôt comme un réseau militant, technique ou une interface avec les institutions, parce que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a quand même une logique de normes à respecter. Et si on reste bien sur ces normes, est-ce que tu penses qu'elles sont là pour protéger, mais aussi peut-être pour verrouiller
On est un peu de tout ça. C'est que je pense que dans notre réseau, il y a des gens militants. Moi, je me considère comme militant. Il y a des gens techniques, et heureusement. Et donc, effectivement, on a un poste, par exemple, qui est vraiment sur de la technique pour accompagner les collectivités sur des aménagements, des nouveaux aménagements. Donc, heureusement qu'on a aussi des adhérents qui sont très techniques là-dessus. Et l'interface avec les institutions, c'est ce qu'on essaye de tendre. Mais heureusement, là encore, on a des adhérents qui savent rentrer là-dedans. Donc, pour schématiser aussi un peu, en fait, on a une organisation. Moi, je suis membre de la commission La CACA, la collégiale administrative de coordination et d'animation. Donc, nous, notre seul rôle, c'est de faire en sorte que les décisions qui ont été prises en Assemblée générale se fassent. On a un travail un peu de coordination des autres commissions, mais les autres commissions sont tout à fait autonomes. Donc il y a la commission par exemple institutionnelle pour essayer de faire changer la législation et elle est assez autonome. En fait, chaque année elle présente un projet en conseil d'administration, enfin voilà, en AG, et si ce projet est validé, eh bien, elle a feu vert pour mener à bien ses missions. En ce moment, notre gros enjeu, c'est sur les filtres à broyat de bois. C'est que quand on a des toilettes sèches chez soi, en assainissement non collectif, donc ça veut dire non raccordé à un système type tout à l'égout. Quand on a des toilettes sèches, on doit quand même avoir un traitement des eaux comme si on n'avait pas de toilettes sèches. Donc c'est des systèmes qui sont assez surdimensionnés et qui sont très coûteux. Donc tous autour de vous, vous devez avoir eu ça. Le copain qui décide d'acheter une maison et il faut qu'il refasse son système d'assainissement, et dans son emprunt, il n'avait pas du tout prévu que c'est des choses assez coûteuses. Et actuellement aussi, où il n'y a pas 1000 systèmes très écologiques, ou écologiques sur le marché, c'est très normalisé. Nous, ce qu'on a essayé de faire, et on est accompagné par France Expérimentation et par l'INRAE de Lyon aussi là-dedans, c'est d'étudier la possibilité que les eaux, donc de lavage, de vaisselle, de machine à laver, elles aillent dans des filtres à broyat de bois. Donc c'est des tranchées. On fait des tranchées à la pelleteuse, mais on peut les faire aussi à la main si on est un peu vaillant, qu'on remplit de broyat de bois. Là aussi, le bois qu'on trouve sur place, on le broie et on le met dans les tranchées, et on va les remplir par alternance. Et en fait, le bois se gonflant avec les bactéries, avec les champignons, avec la porosité du bois et avec l'évaporation, il va y avoir un traitement de ces eaux-là qui contiennent, mine de rien, un peu de pathogènes quand même, quand on se lave les fesses. Et puis c'est des eaux chaudes aussi. Donc ça, les pathogènes, ils adorent les eaux chaudes. Ils se plaisent dans notre intestin, mais ils se plaisent beaucoup dans les eaux chaudes. Et ça fait un système de traitement. Donc c'est une solution extrêmement écologique, extrêmement pérenne. Et ça, on essaye de le faire entrer dans la législation. Donc là, pour le coup, si on arrive à normaliser les filtres à broyat de bois, ça serait une grosse avancée pour l'assainissement écologique.
Pour bien resituer dans quel contexte on se place, on est vraiment dans le contexte de l'assainissement non collectif, avec un arrêté du 7 septembre 2009 qui a permis la reconnaissance officielle des toilettes sèches dans le paysage de l'assainissement. Mais le législateur a oublié de prendre en compte le traitement des eaux grises, donc des eaux ménagères. Et du coup, il n'y a aucun traitement dédié au traitement des eaux grises dans la réglementation française. Donc nous, le RAE, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on a pointé ce problème-là pour toutes les personnes qui souhaitent passer en toilette sèche, en assainissement non collectif. Et on a commencé par une étude du coup en 2017 qui a permis une caractérisation in situ des eaux ménagères, ce qui n'avait pas été fait en fait à notre connaissance. Donc on a montré que les eaux ménagères c'est à peu près 70 litres par personne et par jour, et c'est des eaux facilement biodégradables et faiblement concentrées. Avec, si on prend ce que ça représente en fonction, par rapport à toutes les eaux usées, c'est à peu près 10% des matières en suspension, 20% de la charge organique, et un peu moins de 5% de l'azote quand il n'y a pas quand il n'y a pas les urines. Donc voilà ce qu'il faut retenir, c'est des eaux savonneuses, facilement biodégradables et faiblement concentrées. Pour nous, la définition de l'assainissement écologique, comme on le voit, c'est petit 1, sortir nos matières du cycle de l'eau, et petit 2, recréer un lien entre nos matières et notre alimentation.
Et sur les normes qui verrouillent, par exemple, nous on a un sujet qu'on n'arrive toujours pas à élucider. Le compost de toilettes sèches n'a pas de code déchet. En fait, tous les déchets, un téléphone, un stylo, du papier, a un code déchet qui est sur des normes européennes. Les toilettes sèches à compost n'ont pas de code déchet. Donc, soit on va être dans boue de station d'épuration, ce qui n'est pas en fait notre statut, soit on va être dans litière animale, ce qui n'est pas non plus dans notre statut. Et chaque année, on se réfléchit en disant qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on aimerait? Est-ce qu'on fait cette démarche-là, mais en fait avec le risque qu'ils nous mettent dans une case qui n'est pas du tout la nôtre et qui n'est pas celle que nous, on pense être la bonne? Donc pour l'instant, voilà, on n'a jamais fait les démarches. On avait commencé un petit peu. Là, on est en discussion avec la FNAB sur l'agriculture biologique, que nos matières puissent être utilisables en agriculture biologique. Mais là non plus, on ne sera encore pas dans un système de code déchets. Et c'est vrai qu'on est très partagé entre le ministère de la Santé qui disent « Ah mais non, les excréments humains, c'est hyper dangereux, il faut surtout pas le mettre sur la terre, ça crée des maladies. » Ah oui, aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais les résidus médicamenteux, par exemple, qu'il
Bien
peut y
sûr.
avoir dans les urines, voilà. Et le ministère de l'Agriculture qui dit « Ah non, mais il faut absolument qu'on utilise cette ressource qui est gratuite, qui est à foison, et il faut absolument qu'on l'utilise parce que nous, on est limité en fait dans nos ressources pour amender les terres. Donc on est toujours un peu dans les deux où on n'arrive jamais à trouver la règle. Et effectivement, la norme, peut-être que des fois, il vaut mieux être dans ce flou-là. Et par exemple, en tant que loueur de toilettes sèches, on a des agriculteurs qui nous prennent nos matières pour le mettre au champ ou pour l'épandre au champ. On a des agriculteurs qui utilisent l'urine en agriculture même biologique sans demander d'autorisation. Et la preuve en est en fait que les sols ne sont pas pollués. Voilà, quand par exemple les résidus médicamenteux, je fais une petite parenthèse, mais on aime bien toujours parler de ça parce qu'on a parlé par exemple de les affreuses femmes qui prennent la pilule et après les poissons ils sont stériles. On parle beaucoup de ça, mais en fait c'est parce que les résidus médicamenteux, une fois dans l'eau, ils n'ont pas de changement de pH, il n'y a pas de changement de température, ils sont pas soumis à d'autres choses, donc la molécule reste entière. Mais autant dans du sol, il va y avoir plein de changements qui vont faire que les molécules elles vont se diviser. Alors après, encore un autre problème, on se pose la question des cocktails en disant mais oui, mais si on met cette molécule avec cette molécule-là, peut-être sera encore pire que ce qu'on pensait. Mais en tout cas, de tous les temps et de toutes les sciences, la Terre a un pouvoir de structurer, de remélanger avec ces changements, avec ces bactéries, avec ces animaux qui se nourrissent des plantes. C'est quand même la meilleure solution. Et aussi, nous, ce qu'on dit, c'est que une fois qu'on a uriné dans l'eau, on ne sait pas où ça va. Ça peut partir très très loin, ça peut contaminer des milieux qui sont extrêmement loin, alors qu'au moins quand on amende une terre agricole, oui, effectivement, il peut y avoir aussi des eaux souterraines, mais en fait, on contient quand même une pollution possible à un endroit très compartimenté. Et donc, on peut étudier justement cette structure-là et si ça fonctionne. Mais sur les résidus médicamenteux, toutes les études aujourd'hui disent que la terre, une fois sur la terre, en fait, on ne retrouve pas les molécules dans leur entièreté comme elles sont sorties, contrairement à l'eau.
Outskirts of the city seem to fly me by, and the air all around guns blazing.
God's your soul.